Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, c'est être capable de changement. Qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement, c'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Je vous invite à vous lever. Seigneur, apprends-nous comment t'écouter, te prier, te chanter. Anime notre culte pour qu'il soit signe et témoignage de ta bonté et de ta grandeur. Amen. Nous voici rassemblés en ton nom. Nous louons Dieu avec le psaume 104. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, la sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux, grands et petits. Tous comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Cantique 23:11, page 278. Prenez place. On est au début d'année, même si ce n'est pas le tout début, on est quand même encore au début d'année, nous plaçons notre vie, notre existence sous le regard de Dieu et nous prions. Seigneur, Dieu puissant, je viens ici ce matin pour te dire que je suis tout en bas et je te demande de me tendre la main. Je suis arrivé au fond du puits, Seigneur, et mon puits qui était plein d'eau est à sec. Je viens ici, Seigneur, parce que je n'ai pas d'autre endroit, d'autre place pour aller. Et quand je m'agenouille ici devant toi, je sais que je n'en ai pas le droit, mais j'en ai terriblement besoin. Je souffre tellement, Seigneur, mon corps est lourd comme si je portais un rocher. Je viens pour te demander que tu me décharges de ce rocher, Jésus. Oh, décharge-moi de cette pierre, Seigneur. Viens, Seigneur, oh, viens ici. On ne peut plus continuer comme ça, Seigneur. On ne peut pas continuer à de se battre, de se tracasser, de se maudire, de se garder de la haine comme ça, Seigneur. Tu as seulement été trop bon avec nous, on a fait le mal, Seigneur. Je sais qu'on a fait le mal. Je ne veux pas te dire qu'on n'a pas fait le mal. Je ne veux pas te promettre qu'on ne fera pas de nouveau le mal. Parce que, Seigneur, parce qu'on est seulement des humains et des pécheurs, de la poussière. Nous sommes des humains mauvais dans un monde mauvais. Mais je te demande de recouvrir notre péché avec ton amour et ton pardon, Seigneur. Seigneur, fais entrer ta paix dans nos cœurs. Oh, viens ici, Seigneur, viens ici, je te supplie. Et Seigneur, je te remercie déjà si tu me décharges de cette pierre. Jésus le Christ, lumière intérieure. À la fin du livre du prophète Michée, le prophète annonce que Dieu n'a pas renoncé à sa miséricorde. Qui est Dieu comme toi? Tu ôtes le péché, tu passes sur les révoltes de ton peuple, tu ne gardes pas la colère à toujours, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Une fois encore, Dieu nous manifeste sa bienveillance, il piétine nos fautes, il jette nos péchés au fond de la mer. Dans la Bible, la mer est le lieu des abîmes, des ténèbres et des monstres terrifiants. Dieu prend nos fautes, il les écrase en marchant dessus, il les piétine pour les réduire en poussière, puis il prend le reste de nos péchés et va les enfouir dans la mer au plus profond des abîmes, afin qu'ils ne viennent plus nous perturber. Quand le prophète pose la question « Qui est Dieu comme toi ?» avec lui, nous pouvons répondre « Tu es le Dieu de la miséricorde. Tu nous pardonnes. Alléluia. Amen. Tu consoles, tu pardonnes. Nous chantons. Pardonnez et libérez, écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Transmets la nouvelle. Deux lectures pour ce jour, une assez classique et l'autre tirée du livre, de l'épître de Tite, la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Et je me suis aperçu, en faisant cette prédication, que j'avais déjà prêché sur ce texte, ici, et prêché deux fois sur le même texte de Tite, c'est quand même assez improbable, mais voilà, ça se fait comme ça. Alors, avant de lire, nous prions. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes, parole qui sonne plus fort que nos doutes et qui nous redresse et rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous rends, parole qui nous permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pierre, oui, si c'est toi qui le dit, c'est toi.
Excusez-moi, je croyais qu'il y avait l'autre lecture avant. Donc dans Tite, au chapitre 2, verset 11 jusqu'à 3:10. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres et de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pèche en se condamnant lui-même.
Luc chapitre 3, nous lirons du verset 15 au verset 22. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. »
Écoute, entends la voix de Dieu. Ce dimanche est, selon la tradition et le calendrier liturgique, le dimanche où l'on célèbre, où l'on commémore le baptême de Jésus, le baptême du Seigneur. Mais ne nous leurrons pas, ce baptême a posé quelques problèmes aux premiers chrétiens. Le fait que Jésus ne baptise pas, mais se fasse baptiser, d'abord, c'est un peu ennuyeux. Quels sont les péchés qu'il aurait à se faire pardonner, puisque le baptême de Jean est un baptême d'absolution, est un baptême de repentance. Pourquoi Jésus n'a-t-il baptisé personne? L'apôtre Paul, d'ailleurs, lui-même se vante de n'avoir baptisé qu'une seule personne. Or, le baptême va devenir quelque chose de très important dans la foi chrétienne, donc on est un peu gêné aux entournures avec cette histoire. D'ailleurs, vous avez remarqué que le récit de Luc est un peu bizarrement construit. C'est-à-dire qu'on nous montre d'abord qu'il se fait arrêter, et ensuite on dit que Jésus est baptisé. Comme pour suggérer que ce n'est peut-être pas le baptiste qui l'a baptisé, vous voyez. Alors c'est une construction littéraire. Parfois, on termine une histoire avant de commencer l'autre en revenant un peu en avant. Bon. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est encore plus marqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Quand Jésus va se faire baptiser, le baptiste lui dit « Ouais, mais c'est pas moi qui devrais te baptiser. » Je vais avec mes mots à moi, hein. C'est pas normal. Et Jésus lui dit « T'inquiète, on fait comme ça, continue. » Visiblement, il y a une petite gêne. Mais bon, on ne va pas prêcher sur Matthieu, puisque c'est Luc. Et on va s'intéresser à un autre sujet, moins le baptême que la conversion qui est censée précéder ou accompagner le baptême. Selon l'apôtre Paul, nous en avons bien besoin de cette conversion, car nous partions de loin. Il ne mâche pas ses mots, vous les avez entendus, et il ne mâche pas ses mots quand il parle à ses lecteurs, quand il vous parle, quand il nous parle. Je vous rappelle, car nous étions, nous aussi, autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Non, je n'ai plus, la cour est pleine. Là, nous étions vraiment du mauvais côté du jugement. Là, hein. Alors, heureusement, le salut est entré dans notre vie. Mais logiquement, si on s'en tient à l'enseignement du Baptiste, à ses paroles sur le Messie qui vient, nous aurions tous dû être brûlés comme la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Tel était le Messie annoncé par le Baptiste. Quelqu'un qui viendrait régler les comptes, remettre les pendules à l'heure, faire payer les méchants et récompenser les justes. Forcément, les méchants, c'est les autres, les justes, c'est nous. Quelqu'un qui viendrait venger nos humiliations, satisfaire nos rancœurs et étancher notre soif de vengeance. Les injustices, source de ces macérations, peuvent être réelles ou fantasmées. Ça ne change pas grand-chose dans le fond. Voyez-vous, je ne suis abonné à aucun journal, d'actualité j'entends, et je me tiens au courant en regardant les titres qu'Internet propose à mes lectures le matin. Ah oui, je suis une victime parfaite des algorithmes qui me proposent que je veux bien voir, mais bon, j'en suis conscient. Bon, cela dit, je m'aperçois que je lis surtout les titres. Et, plus que l'article, je m'intéresse aux commentaires des lecteurs. J'y découvre, peut-être de façon un peu malsaine, mais bon, j'y découvre la même aigreur, la même soif non de justice mais de vengeance, avec des commentaires de ce type-là, avec toutes les variations possibles, il faudra que tout ça se paye. Vous allez voir aux prochaines élections. Vous rirez moins quand nous serons au pouvoir. Ces discours de frustration et de faiblesse, d'immaturité, disons-le, se retrouvent des deux côtés de l'éventail politique. À lire les commentaires sur Internet, on a de la peine à se convaincre que la République française est une démocratie apaisée. Et je me surprends parfois avec un certain chagrin, avoir le même comportement, non, disons plutôt les mêmes pensées. Je ne m'abaisse tout de même pas à laisser ce genre de commentaires sur le net. Mais parfois, moi aussi, je me dis, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il mériterait ? Enfin bref. Donc le Messie était attendu pour remettre les choses à leur place et pour rétribuer chacun selon son mérite, chacun selon son dû. Oui, mais voilà. Lorsque le Messie se pointe le bout de son nez, il ne brandit nulle pelle à vanner et n'allume aucun feu. Il arrive avec les autres humblement pour se faire baptiser. Et les paroles qui accompagnent cet acte ne sont pas ceux d'un jugement définitif, mais une parole d'amour qui, à travers le Messie, s'adresse à chacun, à chacune de nous. « Tu es mon enfant bien-aimé, et en toi j'ai mis toute ma tendresse. » Par son baptême, Jésus annonce non le jugement, mais la réconciliation. Ce n'était pas plus audible à l'époque que ce ne l'est aujourd'hui. S'il va déranger beaucoup de monde dans son ministère, il ne semble, lui, ne s'en prendre qu'à une seule catégorie d'adversaires, les religieux. Pourquoi eux ? Parce qu'ils divisent. Ils font des catégories et Paul l'a parfaitement compris lorsqu'il écrit à Tite, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Or, justement, les religieux, par là j'entends les gens qui ont un esprit religieux, ont angoisse d'encourir le déplaisir de la divinité, à tel point que chaque aspect, de leur existence devient une épreuve, un examen de piété. Ainsi, ils en viennent à pinailler sur des bouts de versets et à exagérer les démonstrations de piété, au cas où ne prendre aucun risque de fâcher Dieu. Ces mêmes ergoteurs sont prompts à condamner ceux qui ne pensent pas comme eux ou qui ne sont pas aussi névrotiquement scrupuleux qu'eux, provoquant par leur jugement la division. Et finalement, ils pêchent par peur de pécher. Il existe des religions où chaque activité, chaque geste du quotidien est soumis à l'approbation de la divinité, à un code précis et strict. Il n'en est pas ainsi dans la religion chrétienne, notamment dans sa vision luthéro-réformée. Dieu ne fait pas, j'aime cette expression, Dieu ne fait pas de micro-gestion. Aucun geste du quotidien ne peut par lui-même, en lui-même, être source de la colère de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous mangez, ni à la façon dont vous le faites, ni à la façon dont vous vous lavez ou vous vous habillez. Ces actions-là relèvent de votre liberté et de vos goûts. Ce qui relève du domaine spirituel, ce ne sont pas ces actions, mais ce qui les motive. Ce que cela traduit de votre relation à vous-même, à Dieu et aux autres. Si vous avez fait de la nourriture votre raison de vivre, il y a clairement là un problème spirituel. Mais si un jour vous faites un bon repas, même excessif, ce n'est pas grave. C'est rassurant cette période, ce n'est pas grave. Je dirais même tant mieux pour vous. Ce qui intéresse Dieu, je le répète, c'est cette relation à soi et aux autres. Et dans « autres », évidemment, je mets aussi Dieu. Et précisons encore une chose, si Dieu s'intéresse à ses relations, ce n'est pas parce que si vous transgressez son appel à l'amour du prochain, la dignité divine serait atteinte et vous seriez alors un offenseur de Dieu. S'il s'intéresse à cela, c'est parce qu'il veut votre bien et celui de votre prochain. Si des parents interviennent lorsque leurs enfants se disputent, ce n'est pas parce que leur autorité parentale ou leur dignité serait bafouée, mais parce qu'ils se soucient du bien-être et de la santé de leurs enfants et qu'ils souhaitent que leurs enfants s'entendent et s'aiment. Et si j'ai fait cette digression par la figure de la parentalité, c'est pour faire comprendre que les commandements de Dieu ne sont jamais là, ou rarement là, disons-le, pour la gloire et la sanctification de Dieu, mais pour notre propre vie, notre propre liberté d'enfant de Dieu. La nôtre, bien sûr, mais aussi celle de notre prochain. Car n'oublions jamais que si nous sommes, nous, les enfants bien-aimés de Dieu, notre prochain l'est aussi. Je sais, c'est difficile à admettre que la personne qui nous énerve tant est aimée de Dieu. Mais c'est comme ça. Bref, lorsque nous transgressons les commandements de Dieu, ce n'est qu'indirectement que nous blessons Dieu. Nous faisons d'abord du tort à notre prochain et à nous-mêmes, Dieu n'en souffrant que par ricochet, dans la mesure où il se soucie de nous. Alors, pour revenir à la question du départ, quelle est la conversion qui est attendue de nous ? D'abord, de se débarrasser de l'angoisse de la faute commise inconsciemment, celle de n'être pas à la hauteur, accepter que Dieu nous aime au point qu'il est venu nous chercher, tout pécheur que nous étions. Cela signifie aussi d'arrêter de nous morfondre parce que nous avons des pensées mauvaises, l'envie d'étrangler notre prochain par exemple, Nous ne sommes pas responsables de nos pulsions, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Et c'est là le deuxième point. Travailler sur nous-mêmes à travers notamment la prière, afin de nous débarrasser de la rancœur et de la mesquinerie. Et de chercher avant tout la réconciliation avec nos frères et nos sœurs. Cette conversion, cette amélioration de nous-mêmes, ne provient pas magiquement comme ça par la grâce soudaine et subite du Saint-Esprit. Non, ni même par un travail acharné sur nous-mêmes, mais d'une collaboration entre l'Esprit-Saint et nous-mêmes. Une acceptation du travail de l'Esprit en nous. Si notre salut éternel dépend uniquement de Dieu, notre sanctification demande notre participation et notre humilité. Nous n'y arriverons pas seuls. Mais celui qui nous guide et nous aime ne nous laissera pas sans ressources. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Cantique 43-09, torrent d'amour et de grâce, page 646. Oh. vous propose de dire ensemble la confession de foi numéro 4. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions. Donc, je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de la vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Chaque jour de ma vie, place, oui. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est maintenant le temps de l'offrande, le moment du don. Seigneur Dieu, c'est en ton nom que nous avons fait cette offrande. C'est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons. Amen. Quelques annonces, quelques nouvelles.
Bonjour à tous, merci de votre présence à chacun, merci à Mathieu qui est à l'orgue ce matin, merci à Yvon Serge qui a fait l'accueil avec moi et à Vincent pour cette prédication. Des petites nouvelles, donc il y a Monique du Seigneur qui nous a avertis hier que Hélène Martin était décédée. Hélène Marin était décédée. Voilà. Une dame qui avait plus de 100 ans. Voilà. Les anciens, vous voyez qui est cette personne.
Oui, quelqu'un qui était très impliqué au CERA, notamment. On n'a pas encore la date pour l'inhumation.
Voilà, je continue dans les choses, les événements un peu de... Jeudi, il y a une soirée débat œcuménique. Ça s'appelle « Faire tomber les murs » avec d'une part le cardinal Jean-Paul Vercot et d'autre part le pasteur Samuel Amédro.
Voilà, Samuel Amédro est actuellement président de la région, ecclésiale, bien sûr, de la région d'église, de la région parisienne. Il a été pasteur dans notre église à Lyon, notamment, dans notre région, je veux dire, à Lyon, notamment.
Voilà, et tous les deux, ils ont écrit un livre qui s'appelle « Le pasteur et l'évêque, lettre pour faire tomber les murs ». Et donc, cette soirée débat œcuménique a lieu à 19h30 à la maison du diocèse. Voilà, avec un débat, prière œcuménique et apéritif. Donc, jeudi 16 janvier à 19h30. Alors, sinon, cette semaine, le lundi, il n'y a rien de spécial. Mardi, il y a la prière à 7h le matin. Et à 19h15, il y a la chorale le soir. Mercredi, prière et partage à 18h. Et à 20h, il y a les amitiés judéo-chrétiennes à la Puya. Et le thème, c'est la représentation en question, l'art sacré, la représentation en question. Vendredi, il y a la soirée Bible en partage à 18h30. Voilà, donc c'est la prière, le partage biblique œcuménique sur la forme de la Lectio Divina. Et enfin, dimanche prochain, il y a le culte des cultes familles découvertes.
Je vais vous dire quelques mots.
Voilà.
Alors, il y a aussi donc la catéchèse, bien sûr, après, et le groupe de jeunes le samedi, avant, comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le culte découverte, en deux mots? Alors, pour ceux qui avaient acheté des DVD, je sais que ça fait vieux tout de suite, mais... vous aviez une première fois parmi les bonus, vous aviez une version commentée du film. Vous savez, on voit le film, puis le réalisateur et les acteurs principaux font des commentaires sur comment ils ont tourné la scène, pourquoi ils ont tourné la scène. Bon, alors c'est pas, on va pas parler en dessus du culte, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que c'est un culte qui va être expliqué. C'est-à-dire, voilà pourquoi on fait ça, quel est le sens. Alors ce sera pas toutes les 30 secondes, on va essayer de grouper, de le faire intelligemment, ce serait bien. Et donc, ce serait l'occasion, parce que vous savez aussi, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, d'inviter autour de vous. De dire, bah, écoute, tu me poses la question, c'est quoi un culte protestant? Eh bien, tu as l'occasion, là. Ce n'est pas du tout une idée, on ne va pas essayer de te convertir, c'est pas... Bon, ce serait très radical de se convertir, ce n'est pas la question. Mais ce n'est pas du tout l'idée de la chose, c'est de dire, ben bah, voilà, bah, tu viens et tu regardes, et puis on t'explique, et tu comprendras mieux que si simplement tu débarques, et puis tu vois des gens qui se lèvent, qui s'assoient, tu ne sais pas pourquoi... pourquoi il est habillé en noir, le monsieur? Là, je ne suis pas habillé en noir, mais d'habitude, bon, je mettrai ma robe. J'ai promis, on m'a exhorté de mettre la robe. Pourquoi il est habillé en noir, le monsieur? Est-ce que c'est toujours lui qui... Enfin bref, il y aura toutes sortes de petites choses comme ça. Donc c'est l'occasion, dans la bonne humeur, parce qu'on essaiera de le faire avec un peu d'humour et de distance, d'expliquer pourquoi on fait les cultes et pourquoi on y vient. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'hésitez pas à inviter, si vous le voulez. On vous enverra dans la semaine un petit papier où vous pouvez éventuellement imprimer et donner. Mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des idées, dites, tiens, ce serait bien que tu parles de ça, vous me le dites et j'ajouterai, ou éventuellement, si ça le fait.
Encore une petite
chose. Oui, je t'en prie. C'est dimanche prochain,
oui. Oui.
C'est un culte famille, on trouvait que c'était plus joyeux d'un culte famille de le faire.
Voilà, il y a l'affiche qui est sur la porte, hein, si vous voulez la regarder. Et puis, un rendez-vous peut-être un peu plus lointain, la semaine d'après, il y a la semaine œcuménique, ça sera le mercredi 22 janvier à 19h à l'église Gospel Center. Donc c'est l'église qui est sous les, qui se réunit sous l'église du Sacré-Cœur à Cran. Et puis une dernière chose, l'appel du mois est arrivé, il concerne l'Iran face à la répression. Je soutiens le peuple iranien. Protestons, indignons-nous et portons dans notre prière les personnes exécutées en 2024 pour avoir dénoncé les violations des droits humains et le refus de la liberté d'expression. Voilà, cet appel est sur le présentoir où Thierry peut vous en parler sinon. Merci.
Alors, une toute dernière chose, c'est presque lors de la petite annonce. J'ai eu c'est Marie-Christine Mills qui me fait parvenir cela. Il y a une dame qui va déménager, il y a son fils de 21 ans qui se retrouve du coup sans logement et qui a un CDI, qui peut mettre un salaire, un loyer de 600 euros. Donc si vous avez une piste, merci de contacter soit Marie-Christine, soit moi, pour le logement de ce jeune homme. Voilà. Pardon ? Mais il est occupé actuellement, le studio. Je vous invite à la prière d'intercession. Notre monde, ô Dieu, devrait être un jardin. Mais il est un désert pour tant et tant de gens. Désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de spiritualité, désert d'humanité. Nous t'en prions, ménage dans ce monde des oasis pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivrera de la sécheresse. Nous te remettons les enfants abandonnés, les femmes délaissées ou maltraitées, les hommes découragés et désœuvrés, les parents sans affection, les mourants sont consolation. Envoie-leur des messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour ces anges de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous montrer, de nous renouveler la disponibilité, la compréhension et l'espérance, sans lesquelles nous ne pourrions être des témoins de ton amour parmi les humains. Accorde-nous pour cela tout l'amour de Jésus, notre Maître, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et le chant final. L'envoi est tiré de... Ça y est, j'ai oublié le nom. Ce sont les diaconesses de Reuilly, c'est leur règle, la règle des diaconesses de Reuilly. Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai qui n'est pas mutisme, mais passerelle vers l'écoute et la communion. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Laisse le monde et approche-toi du Christ comme Marie à Béthanie. Respecte les lieux et les temps convenus pour le silence commun. Nos villes surchargées de bruit tuent l'homme dans ce qu'il a d'essentiel. Ouvrons-lui une porte au cœur purifié de notre amitié. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous fortifie et vous donne la paix. À lui seul, le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.